Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante, Croire, comme le dit l'Écriture sainte. Croire, comme le dit l'Écriture sainte. Nous arrivons à l'étude numéro 17 et le thème de cette étude sera la motivation et la récompense du disciple. Nous abordons une vérité biblique dont l'importance est fondamentale dans la vie de tout disciple de Jésus-Christ, la motivation qui le pousse à agir dans son travail pour le Seigneur. Dans le plan de Dieu, ce qui est à prendre en considération est bien plus l'ouvrier que son ouvrage, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. En définitive, ce n'est pas tellement ce que nous faisons pour le Maître qui compte, mais surtout, c'est la raison profonde pour laquelle nous œuvrons, que nous travaillons. Quelqu'un a très justement dit un jour, « La partie la plus importante d'une vie chrétienne est celle que Dieu seul voit. » Si nous accordons plus de valeur à notre réputation qu'à notre caractère, nous deviendrons tôt ou tard des hypocrites. C'est pourquoi le test divin que le Seigneur nous fera passer pour juger toute notre conduite et toute notre activité ici-bas, ce sera le mobile derrière tout de nos actions. Donc, premièrement, un directeur de chorale était en train de tester une de ses choristes. Voilà donc un exemple merveilleux qui est à retenir pour tout un chacun d'entre nous. Écoutez bien la suite. J'ai dit un directeur de chorale avait dans son groupe de chanteurs une soliste d'un talent exceptionnel. Brusquement, celle-ci lui téléphona pour l'informer qu'elle quittait la chorale. Et il lui répondit aussi sèchement « Votre démission est acceptée sans problème ». Là, elle a eu un sursaut de surprise et, bredouillant quelque peu, elle lui dit « Vous êtes sérieux ?»« Naturellement, je suis sérieux », a répondu le directeur. « Vous avez joint la chorale de votre plein gré et vous pouvez vous en retirer de votre plein gré quand vous voulez, si c'est là vraiment votre choix. Mais puis-je d'abord venir vous voir, dit-elle, et vous donner quelques explications, continua-t-elle à lui demander. Et en arrivant, elle lui rappela néanmoins avec quelques hésitations, « Mais, monsieur, cela fait maintenant tout un mois que vous ne m'avez même plus demandé de chanter. Si c'est là la raison de votre départ, reprit fermement le responsable, alors vous avez tout à fait raison de le faire. Il semble manifestement que vous ayez chanté, non pas pour la gloire de Dieu, mais uniquement pour votre propre gloire. Et je n'ai pas de place pour de tels chanteurs dans ma chorale, même si vous êtes exceptionnel. Il ne vous sera donc absolument pas possible de revenir, à moins que vous ne changiez de motivation et que vous reconsidériez votre attitude devant le Seigneur, qui, me semble, est pas franc ou franche. Et là, au bout de 3 semaines, cette chanteuse revient tout à coup. Elle dit, « Monsieur, j'ai bien réfléchi et j'ai même prié. Aussi j'ai pris la résolution de me consacrer uniquement au Seigneur et cette fois de chanter uniquement pour sa gloire et non plus comme je le faisais avant pour ma gloire, pour qu'on me trouve exceptionnel et qu'on vienne que pour moi. Alors me permettez-vous de revenir dans cette attitude nouvelle? Certainement, répondit le chef, mais votre place au premier rang, elle a, hélas, maintenant été confiée à quelqu'un d'autre. Venez donc à la prochaine répétition et nous vous trouverons sûrement une place, mais ce sera peut-être dans les derniers rangs. Aussi, à la fin de la répétition, cette soliste déclara à son dirigeant, également un très grand musicien, « Monsieur, je suis prête à me tenir à n'importe quelle place, la plus petite sera plus que je ne mérite. » Oh, voilà ce que je désirais vous entendre dire, répondit chaleureusement son directeur de chorale. Je vous crois. Aussi, je désire vous voir chanter en solo dimanche prochain. Et c'est ce qu'elle a fait. Et bien que sa voix fût la même, en quelque sorte, puisqu'elle était une chanteuse exceptionnelle. Mais la chanteuse, elle, était totalement transformée, chers amis. Puissions-nous tous tirer quelques leçons salutaires de cette histoire authentique. Deuxièmement, Jésus réprouve toute activité faite pour être vue des hommes. L'avertissement est clair. Nous ne devons pas seulement veiller à ce que nous accomplissions ou accomplissons pour le Seigneur, mais nous devons veiller surtout et avant tout à l'esprit dans lequel nous le faisons. Jésus a dit à ses disciples, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Saint Matthieu, chapitre 6, verset 1. Il est regrettable que bien des activités religieuses s'effectuent dans un mauvais état d'esprit. il est possible de travailler pour le Seigneur et cependant être animé d'un esprit de jalousie, un esprit de compétition et d'orgueil, ou même de vanité. Cette façon de travailler est bien sûr nuisible et dangereuse concernant les rétributions à venir. En ce qui concerne notre motivation au service de Dieu, les pharisiens nous fournissent un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire et que le Seigneur désapprouve totalement. Un jour, Jésus s'est adressé à la foule et aux disciples en ces termes. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais, surtout n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, mais ils ne le font pas. Ils lient des fardeaux très pesants et ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt eux-mêmes. Ils font toutes leurs actions pour être vu uniquement des hommes. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Quiconque s'élèvera, sachez bien cela, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est confirmé par saint Matthieu, chapitre 23, verset 1 jusqu'au verset 12. S'il vous plaît, essayez de noter les citations que je vous donne pour vérifier que c'est bien uniquement la parole de Dieu que vous entendez. Les pharisiens représentaient l'échec et la faillite du monde religieux de leur époque, non seulement à cause de leur refus d'obéir à la sainte parole de Dieu, au profit de leur tradition religieuse, saint Matthieu chapitre 15 verset 6, mais aussi à cause de leur hypocrisie devant les hommes qui se traduisait par des motifs cachés et indignes, et ce, pour paraître juste aux yeux des autres. Quand ils priaient, c'était uniquement pour être entendus des hommes. Cette dissimulation détruisait toutes les prières au point de les rendre inutiles. Il jugeait le péché quand il le trouvait chez les autres, mais eux-mêmes étaient hypocrites et durs de cœur. Saint Matthieu chapitre 23. Troisièmement, Jésus n'est pas influencé par de belles apparences. Les activités des pharisiens revêtaient une certaine apparence de sainteté. Nous avons parfois des chrétiens parmi nous. On peut les remarquer avec la tête un peu penchée, un air de sainte nitouche. Et pourtant, j'en dis pas plus. Elles auraient été bonnes et louables, leurs activités à ces pharisiens, si seulement leur motivation avait été pure. C'est là le problème. Mais c'était précisément là que le bât blessait. Voyez-vous, ces religieux propres justes étaient si aveugles sur leur état qu'ils étaient devenus les ennemis de Jésus au point de le rejeter sans même se douter de la gravité de leur propre condition. Les chrétiens, particulièrement les serviteurs de Dieu, et tous ceux qui exercent un ministère, devraient souvent mettre du temps à part. Et comment ? Pour se laisser sonder et être sûr de leur motivation. Que de solos, des gens exceptionnels qui chantent pour épater la galerie, de sermons qui sont prêchés pour exhiber des talents d'orateurs extraordinaires. Et combien d'églises ou d'œuvres chrétiennes sont fondées dans un esprit de rivalité. Même une activité missionnaire, oh oui, cela peut devenir compétitive et le fait de gagner des âmes peut dégénérer en une sorte d'activisme charnel pour se faire un nom. N'oublions donc pas que les pharisiens étaient de grands missionnaires eux-mêmes et qu'ils auraient fait le tour du monde s'ils avaient pu pour gagner une seule âme. Le meilleur moyen, voyez-vous, pour éviter le piège d'une vaine activité religieuse, eh bien, c'est de laisser la sainte parole et l'Esprit de Dieu sonder nos motivations cachées. Combien il est important de méditer sérieusement les paroles de l'apôtre Paul dans le 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Dans les premiers versets, l'apôtre Paul cite les plus grandes œuvres religieuses en les plaçant au rang des futilités. Incroyable, mais vrai. À moins qu'elles soient motivées par un amour sincère. Les prophètes, les enseignants, les orateurs, les philanthropes, etc., seront privés de récompenses s'ils n'ont pas eu les bonnes motivations devant Dieu. Quatrièmement, Jésus nous demande de tout faire comme pour lui, et non pas pour les hommes. En résumé, Dieu jugera aussi bien nos actions que les motifs cachés qui nous ont poussés à les accomplir. Quand nous devrons nous présenter devant le tribunal de Christ pour rendre compte de nos actions dans ce monde, eh bien la question la plus pénétrante qui nous sera posée ne sera pas « Que as-tu fait pour moi ?» Mais la question sera « Pourquoi l'as-tu fait ?» Oui, chers amis, puissions-nous sonder nos cœurs en considérant ces paroles de l'apôtre Paul quand il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, faites-le comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant très bien que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez donc Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Colossiens chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 25. Voyez-vous, il exhorte ici les chrétiens de Colosse à considérer même leur travail quotidien, quel qu'il soit, comme étant un service rendu au Seigneur, en fait, comme étant un ministère. Apprenons donc à travailler comme si Jésus était notre employeur, réalisons que tout travail accompli, comme pour le Seigneur, sera un jour récompensé. Ce passage est très important pour tout disciple de Jésus-Christ. Tant de tâches nous semblent parfois déplaisantes que nous faisons tout pour les éviter. Mais dans ces versets, l'apôtre Paul nous enseigne une leçon vitale. La tâche la plus humble et la plus insignifiante est valorisée si nous la faisons pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu entre un travail de la vie quotidienne et un travail spirituel. Ce que nous faisons pour le Seigneur devient alors sacré et doit par conséquent lui être consacré. Le missionnaire bien connu Hudson Taylor, il a dit un jour qu'on pouvait plaire au Seigneur Jésus dans les choses les plus banales de la vie. Il entendit un jour une anecdote sur un certain pasteur Oberlin qui, lui, devait écrire une lettre à un homme sans instruction. Et quelqu'un observa le soin qu'il prenait pour le faire et il lui dit « Mais pourquoi vous donnez-vous tellement de peine ? Car cet homme est inculte et il ne saura pas distinguer une belle écriture appliquée comme vous faites d'une écriture négligée. » Alors Oberlin lui répondit, « Voyez-vous, Jésus regarde par-dessus mon épaule, et c'est d'abord pour lui, oui pour lui que je trace mes lettres. Ne devrais-je pas en faire de belles ? Oui, les plus petites choses que nous accomplissons ne seront plus ennuyeuses et insignifiantes si nous les consacrons uniquement au Seigneur. » Cinquièmement, une récompense particulière attend tous ceux qui sont de vrais disciples de Jésus. En nous investissant pleinement pour vivre une véritable vie de disciple, comme nous venons de le décrire tout au long de cette étude, eh bien la Sainte Bible nous promet une entrée triomphale dans le royaume céleste de notre Sauveur. En effet, l'apôtre Pierre exhorte vivement les chrétiens à ne pas se relâcher dans leur zèle et dans leur consécration, et cela à cause du glorieux accueil qui les attend. Faites donc tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. Alléluia. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, chers frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 5, et noté jusqu'au verset 11. Dans le texte original, il existe une merveilleuse métaphore. Là, il est question non seulement d'un bon accueil, mais d'une entrée triomphale. Il s'agit d'une chorale céleste qui recevra les chrétiens consacrés ou les disciples de Jésus qui se sont appliqués à affermir leur vocation et leur élection ici-bas. L'apôtre Pierre veut donc dire qu'un cœur d'ange, comprenant une multitude de voix, accueillera en chantant les chrétiens fidèles qui se présenteront au ciel. Oui, ensuite accueillera en chantant les chrétiens fidèles, ces chrétiens fidèles qui se présenteront au ciel. Oui, chers amis, quelle bienheureuse espérance et quel encouragement à consacrer à nouveau notre vie, votre vie au Rédempteur. Au ciel, aucune différence ne semblera avoir été trop dure. Aucun renoncement ne sera regretté. Aucune épreuve ne sera jugée trop pénible. En fait, toutes ces contrariétés que nous supportons victorieusement contribueront à la récompense que nous attend lors de notre entrée dans la gloire éternelle. L'ultime récompense du disciple, ce sera d'être reçu dans le royaume de Dieu personnellement, et cela, écoutez la suite, avec honneur, par le Seigneur lui-même. C'est, du reste, ce que Étienne a vécu. Oui, il l'a vécu après avoir glorifié son Sauveur. Notez Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 56. L'apôtre Paul a lui aussi anticipé ce moment prodigieux pour lui, comme pour tous ceux qui auront aimé, qui auront servi et attendu leur Sauveur avec fidélité jusqu'au bout. Inspirés par le Saint-Esprit, avant d'aller à la rencontre de son Maître, il, l'apôtre Paul, écrit ces paroles mémorables et pleines d'espérance. Il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, c'est la couronne de justice qui m'est réservée. Oui, le Seigneur, le juste juge, me l'a donnée et me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais non, mais encore à tous ceux, avez-vous entendu? À tous ceux, cela concerne vous qui écoutez maintenant, vous qui auront aimé son avènement. Deuxième épître de Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Donc chaque chrétien fidèle expérimentera, comme l'apôtre Paul l'a aussi enseigné, un accueil triomphal et une entrée glorieuse lui sera largement accordée. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 11. Car Dieu, oui, Dieu promet qu'il honorera celui et tous ceux qui l'honorent, qui honorent Dieu le Père. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Il est donc absolument vrai que tous les chrétiens seront reçus au ciel, mais selon l'apôtre Pierre, certains auront un accueil encore plus glorieux que d'autres. Cela sera dû à leur fidélité au Seigneur et à sa sainte parole, ainsi que à leur consécration sur la terre. D'autres chrétiens, hélas, plus négligents, et je me trouve parmi eux, il me semble, seront eux sauvés, mais un peu comme au travers du feu. 1 Colossiens chapitre 3 verset 15. Je voudrais simplement vous dire, et je le dis très sérieusement, j'ai été un chrétien, comment faut-il dire cela, un soi-disant chrétien, pendant toute une série de ma vie. Et n'attendez pas que vous ayez comme moi bientôt 90 ans pour enfin vraiment tout faire pour le Seigneur avec tout votre cœur, avec toute votre âme et tout votre esprit. N'attendez pas d'avoir un grand âge, mais faites-le maintenant, vous qui écoutez, faites-le maintenant, et vous recevrez des récompenses inimaginables, au-delà de vous, ce que vous pouvez penser. Oui, vous savez, chacun est responsable pour soi-même, et si j'ai été un chrétien pseudo-chrétien, eh bien, je vais en payer les conséquences, c'est normal. Je vais même vous dire, s'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, selon Dieu le Père, selon la loi, je serais banni pour l'éternité. Et je dis cela avec tout mon sérieux. Or, un jour, Jésus-Christ m'a sorti de la fosse. C'est quelque chose de tellement grand ce qu'il a fait que je lui suis reconnaissant pour l'éternité. Mais n'attendez pas à demain, car demain vous appartient pas. Écoutez un peu les nouvelles ou les nouvelles à la télé, encore aujourd'hui, une voiture a foncé dans un camion ou l'inverse, je ne me rappelle pas, et il y a des morts. Mais ces morts étaient jeunes, pleins d'espoir, mais leur vie s'est arrêtée promptement. D'un seul coup, ça peut arriver à chacun entre nous. En conclusion, puisse cette visite de l'accueil qui nous sera réservé dans le ciel, nous motiver dès maintenant à être des disciples fervents et obéissants qui se mettent à l'entière disposition de leur glorieux Sauveur et Seigneur, et cela avec ce seul objectif, lui plaire en toutes choses. Il est donc urgent de renouveler chaque jour notre consécration à son service, afin de ne pas rester oisif ou stérile, selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. L'apôtre Paul nous exhorte fortement dans ce sens lorsqu'il dit aux chrétiens de Rome « Ayez du zèle et non de la paresse, même si vous êtes momentanément déprimés. Soyez donc fervent d'esprit. » Je répète, soyez fervent d'esprit. Et servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, et soyez patient. Oui, ayez la patience dans l'affliction, car elle ne durera pas éternellement. Et persévérez dans la prière. Romains, chapitre 12, versets 11 et 12. Et sixièmement, pour terminer notre courte étude d'aujourd'hui, le disciple n'est pas appelé à annoncer des choses agréables, mais il doit surtout annoncer des choses vraies. Alors que nous obéissons à l'ordre du Seigneur de faire des disciples, veillons jalousement à ce que la sainte flamme de notre consécration brûle constamment sur l'autel de notre cœur, et cela jusqu'à son retour. Et à cause de l'apostasie des derniers temps dans lesquels nous sommes maintenant, qui est à l'œuvre au sein même de l'Église actuelle, prenons garde de ne pas nous égarer dans notre foi, afin que notre travail ne soit pas vain dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Hébreux chapitre 2, verset 1. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, alors ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront même l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, qu'écoute maintenant. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, s'il te plaît. Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Deuxième épître de Timothée, excusez-moi, de Timothée, chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 5. Pardonnez-moi de l'erreur tout à l'heure. Un médecin sage cherche à guérir ses patients plutôt que à vouloir simplement leur plaire. Et même si un de ses malades le réprimande pour un médicament qui pourrait être un peu amer, celui-ci lui sera certainement reconnaissant une fois rétabli. Ne nous laissons donc pas dans le bon combat. Mais soyons fermes et non pas faibles et branlants et grelottants et déprimés. Mais soyons fermes dans le bon combat de la foi. Première épître de Timothée, chapitre 6, verset 12. Car voyez-vous, le Seigneur récompensera un jour, oui, un jour, non pas nos succès, les succès de tous ses disciples, quels qu'ils soient, mais il récompensera leur fidélité. Il récompensera notre fidélité. Restons fidèles, même si vous avez l'impression, et ce qui m'arrive aussi, que je ne suis pas grand-chose. Mais restons surtout fidèles. Saint Matthieu, chapitre 25, versets 21 et 23. Donc, à l'instar de l'apôtre Paul, en attendant le jour ineffable et indescriptible de notre union avec le Seigneur, déclarons humblement, mais fermement, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saint par Jésus-Christ. Et j'ai été saisi surtout par mon Sauveur et Seigneur, qui, lui, m'a rendu saint. Il m'a sanctifié, il m'a purifié de tout ce qui était pas très, je voulais dire un mot, pas très catholique, c'est une expression, vous l'avez compris, mais je peux aussi dire qui était sale. Eh bien, il m'a complètement changé et il va le faire pour vous absolument la même chose. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Pour terminer, je voudrais juste citer une pensée de un des plus grands hommes de Dieu, c'était C.H. Spurgeon. Il a dit, seulement ceux qui auront porté leur croix sur la terre porteront une couronne dans le ciel. Chers amis, nous allons maintenant prier. Mais avant de prier ensemble, le Seigneur m'a donné quelque chose par l'Esprit Saint pour vous transmettre, pour vous encourager et en même temps pour vous enseigner. Voilà ce qu'il m'a donné pour vous. Nous vivons dans un monde affamé, insatisfait, et qui cherche, ou qui se cherche. Le Seigneur compte sur ses disciples pour y répondre. Reflétez-le, lui, afin que ceux qui le cherchent le voient en vous. Et puis, allez de l'avant avec le Seigneur, toujours. En cela, réjouissez-vous comme a su se réjouir l'apôtre Jean, mais aussi Jean-Baptiste. Rappelez-vous, Jean-Baptiste, quand il a pu diriger vers Jésus tous ses propres disciples, oui, il l'a fait. Alors je répète, réjouissez-vous comme a su se réjouir Jean-Baptiste quand il a pu diriger vers Jésus ses propres disciples, et cela avec ses mots très courageux et très humbles quand il a dit « Il faut que lui, Jésus-Christ, croisse et que moi, je diminue. » Saint Jean, chapitre 3, verset 30. J'ai pris cela dans une version allemande. « Allez donc de l'avant dans la foi, dans la joie et dans l'amour. Lorsque vous pensez à Jésus-Christ comme à votre libérateur, alors souvenez-vous qu'il ne vous délivre pas du péché seulement, ou de la dépression, ou même du désespoir, mais il veut vous libérer également des difficultés ordinaires de la vie. Pas seulement ça, mais également de la perplexité qui parfois est la vôtre en face d'un choix à faire entre plusieurs voies qui se présentent parfois. Le Seigneur est là. Il est là, oui, pour résoudre vos problèmes, pour vous apporter en tous et en tout les éléments d'une aide efficace. Dieu envoie même ses anges, selon Malachie, chapitre 3. Oui, il envoie ses messagers. Il veut préparer le chemin devant vous. Il vous entraîne et il vous forme en vue de la tâche qui vous attend, de la façon à ce que vous soyez en état de recevoir la grâce qu'il tient en réserve. Il les tient en réserve pour vous à cette occasion. Oui, celle qu'il est impatient même de vous accorder bientôt. Merci et que nous puissions maintenant prier ensemble. Prions. Il est dit, lève les yeux vers le ciel et regarde en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin, est-il dit dans Ésaïe, chapitre 51, verset 6. Seigneur notre Dieu, rends-nous dignes, au cours de notre rapide pèlerinage à travers ce monde temporel et transitoire, de pénétrer en ton éternel royaume pour y parvenir à une vie nouvelle et supérieure dans le repos et le travail, à une éternelle maturité, à l'épanouissement total et à l'harmonie, au but ultime après lequel soupire notre âme encore divisée et encore insatisfaite. Conserve et fortifie en nous, malgré la mort, malgré l'universel écroulement du visible et malgré le péché, accorde-nous la foi en la vie éternelle, que nous puissions te contempler, ô Dieu, tel que tu es, et face à face. À toi, Seigneur, seul Dieu, Père de notre Sauveur Jésus-Christ, et notre Père, soit l'honneur, la louange, la force et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.